Bonsoir, bienvenue à l'Opéra Comique pour cette cinquième représentation d'Hamlet d'Ambroise Thomas, une production que nous avons créée en 2018 et que nous avons le plaisir de reprendre en ce début d'année, avec le même orchestre des Champs-Élysées, avec le même chef d'orchestre Louis Langré, qui est devenu notre directeur le 1er novembre dernier, on a beaucoup de chance, et avec la même mise en scène évidemment de Cyril Test. Les chanteurs et chanteuses sont également les mêmes, à l'exception du rôle de la reine Gertrude, qui est cette année chantée par Lucille Richardot. Sylvie Brunet a eu un problème de santé qui l'a empêchée de nous rejoindre sur cette production, mais sinon vous allez retrouver ou découvrir Stéphane Degout en Hamlet, Sabine Devielle en Ophélie, Laurent Alvaro en Claudius, Jérôme Varnier en... je vous dis pas qui, vous verrez, et les autres, des artistes merveilleux qu'on était très contents de rassembler en 2018 pour cette production qui a marqué un grand coup, qui a permis de redécouvrir Hamlet d'Ambroise Thomas à Paris. On avait déjà, il y a une dizaine d'années, ressuscité Mignon, du même Ambroise Thomas, qui avait été un titre très très fort, très très célèbre de l'opéra comique, et qui avait été joué pendant toute la fin du 19e siècle et une première moitié du 20e siècle, un peu partout dans le monde. Hamlet a eu un destin un petit peu plus singulier, un petit peu moins extraordinaire, mais les deux ouvrages ont été créés à 2 ans d'intervalle, et pour les contemporains d'Ambroise Thomas et pour le public mélomane, pas seulement français mais aussi étranger, de la fin du 19e siècle, c'était vraiment les deux grands chefs-d'œuvre de ce compositeur. Alors ce compositeur, d'ailleurs, si vous voulez voir la tête qu'il avait, vous pourrez le retrouver pendant l'entracte au foyer, il y a son buste. Vous allez voir, il est triste, il est sombre, il est âgé, il a l'air accablé de misère, comme on aimait probablement représenter les grands compositeurs officiels à la fin de leur carrière. Mais Ambroise Thomas, à l'époque où il a abordé la pièce de Shakespeare, Hamlet, était un jeune compositeur d'une trentaine d'années, très enthousiaste, et pendant longtemps, il a vécu, habité par cette pièce, jusqu'à trouver l'occasion de composer un opéra. Alors, le moment où Ambroise Thomas, jeune compositeur, rencontre la pièce de Shakespeare, Hamlet, eh bien, c'est l'année 1847, et c'est à l'invitation d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, en 1847-1848, dirigeait un théâtre qui s'appelait le Théâtre historique, où il montait alors, des versions scéniques de ses romans à succès, mais aussi des versions françaises, des grandes pièces du répertoire européen. Et il avait décidé de monter Hamlet, à sa façon, donc en retraduisant la pièce de Shakespeare et en l'arrangeant au goût du public français. Il faut savoir que 20 ans plus tôt, 20 ans pile plus tôt, en 1827, Alexandre Dumas, je ne parle plus d'Ambroise Thomas, qui était un petit enfant, mais Alexandre Dumas, en 1827, il avait 25 ans, et ici même, il a découvert Shakespeare joué par des comédiens anglais. Ici même, en 1827, c'était pas l'opéra comique, il y avait une institution qui s'appelait le Théâtre italien et qui recevait tous les printemps une troupe étrangère qui donnait son répertoire. C'était parfois des chanteurs allemands qui venaient faire le Freischütz, par exemple. C'était parfois des comédiens anglais qui venaient jouer Shakespeare. Et ce printemps-là, 1827, des comédiens anglais sont venus jouer plusieurs pièces de Shakespeare, dont Hamlet, et toute la jeune garde romantique était là, bien sûr, soir après soir, pour découvrir Shakespeare en anglais, avec sur les genoux, alors, de vieilles traductions, enfin déjà vieilles traductions de la fin du XVIIIe siècle, traductions françaises très édulcorées, où on avait fait rentrer Shakespeare dans le moule des 3 unités du théâtre français. Vous imaginez Shakespeare réduit à 3 unités, pas facile. Traduit en alexandrin, donc extrêmement polissé, courtois, élégant, pas très shakespearien. Et là, en 1827, vous aviez Hector Berlioz, Eugène Delacroix, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Georges Sand, je ne vais pas vous faire la liste, tous dans les salles soir après soir à découvrir Shakespeare, pas tout à fait authentique, parce qu'en 1827, on joue pas non plus, les Anglais ne jouent pas un Shakespeare pur du début du XVIIe siècle. Ils l'ont trafiqué pendant tout le XVIIIe siècle, mais quand même Shakespeare plus brutal, plus violent, plus burlesque, plus fort, et le jeu à l'anglaise, qui impliquait que eh bien, les artistes, les interprètes, se rampaient par terre, tournaient le dos au public, criaient, pleuraient, etc. Alors vous savez certainement que Hector Berlioz est tombé amoureux de l'interprète d'Ophélie, qui était aussi l'interprète de Juliette, Harriet Smithson, qu'il a épousée après avoir composé pour elle, entre autres, la Symphonie Fantastique, l'idée fixe, c'est elle, c'est donc Ophélie. Et puis, vous savez aussi que Victor Hugo a tiré de cette expérience très forte la préface de Cromwell, dans laquelle l'année suivante, il a dit à tous les lecteurs français, c'est ça maintenant qu'il faut faire, l'art romantique, c'est cette union du tragique et du comique, du burlesque et du noble. C'est la grande leçon de Shakespeare. Le théâtre doit être un point d'optique du monde, il doit rassembler tout ce qui existe dans le monde, et Shakespeare nous ouvre la voie. Et donc Alexandre Dumas a saisi la leçon à sa façon, a écrit son théâtre, a écrit ses romans, et lorsqu'il a eu l'occasion, sous la brève Deuxième République, d'ouvrir son théâtre, il a voulu monter Shakespeare. Et il a monté Shakespeare comme on faisait le théâtre à l'époque, c'est-à-dire avec des musiques de scène. Le théâtre au XIXe siècle, le théâtre parlé au XIXe siècle, est toujours accompagné de musique de scène. Il y a des orchestres dans tous les théâtres de répertoire parlé qui jouent des musiques, comme aujourd'hui on nous joue des musiques quand on va au cinéma. Et le jeune compositeur qui l'a contacté pour composer les musiques de scène de son Hamlet de 1847, c'était donc le jeune Ambroise Thomas. Et là, Ambroise Thomas a découvert un univers scandinave qu'il fallait qu'il mette en musique. Et puis, il a découvert un personnage qui est particulier, qui est le personnage d'Ophélie, parce que dès la pièce de Shakespeare, Ophélie s'exprime de préférence par le chant. Ophélie est une jeune fille très pure, une jeune fille très simple. C'est la fille du ministre, mais comme toutes les jeunes filles occidentales de l'époque, elle est très ignorante et elle est habitée par une émotion, son amour pour Hamlet. Et elle a une façon très singulière, bien à elle de s'exprimer, parce qu'elle n'a pas beaucoup de vocabulaire, elle chante, et ses chansons sont pleines de sens. Pour Ambroise Thomas, ça avait fait partie du charme de l'aventure de découvrir qu'au sein de ce grand théâtre occidental, il y avait un personnage pour qui la musique était vitale, était comme une respiration. Et il a attendu ensuite pas mal d'années, c'est devenu un compositeur notoire, il a connu donc ici, en 1866, un énorme succès avec Mignon. Mignon, c'était l'adaptation d'un roman de Goethe, Wilhelm Meister. Il n'y avait que les Français pour oser transformer un roman de Goethe en opéra comique, en mariant les protagonistes à la fin, alors que dans le roman de Goethe, il n'en est rien. Et ce titre avait eu un tel succès à l'opéra comique que même les publics allemands, les théâtres allemands, avaient dit ben, « Envoyez-nous Mignon, ça a l'air drôlement bien, on va prendre. Refaites-nous juste la fin, on prend. » Donc, Ambroise Thomas, auréolé du succès de Mignon, aborde l'année 1867 avec un nouveau projet qui est le projet Hamlet. Et comment ce projet est-il arrivé dans sa vie? C'est même pas lui qui a vraiment réclamé, c'est que l'année 1867, si vous êtes venu le mois dernier à l'Opéra Comique, vous le savez, c'est l'année de la création de Roméo et Juliette de Gounod. Donc un Shakespeare adapté à l'opéra, comme beaucoup de compositeurs français ou parisien à ce moment-là, s'y exerçait. Hein. Vraiment, c'est la décennie des années 1860 où on adapte Shakespeare à l'opéra. Verdi le fait, Félicien David le fait, Hector Berlioz le fait, ils le font tous. Donc Gounod, en 1867, remporte un succès extraordinaire avec Roméo et Juliette dans une institution qui n'est pas l'opéra comique, qui est le théâtre lyrique qui se trouve par là-bas, place du Châtelet. Et ces librettistes sont messieurs Barbier et Carré, un tandem de librettistes extraordinaires qui vont aussi faire le livret des contes d'Hoffmann, d'Offenbach, par exemple. Ils sont spécialisés dans l'adaptation de grandes œuvres littéraires au livret d'opéra ou d'opéra comique. Ils ont parfaitement réussi l'adaptation de Roméo et Juliette pour Gounod, et donc le nouveau projet du directeur du théâtre lyrique à ce moment-là, c'est tout de suite de rebondir sur le succès d'Ambroise Thomas ici, et de dire à Ambroise Thomas, pour chez nous, au théâtre lyrique, faites-nous un Hamlet avec les mêmes Barbier et Carré. Et l'affaire se conclut, sauf qu'une troisième institution intervient. C'est l'opéra. L'opéra très jaloux du très grand succès de Mignon à l'opéra comique ici, très jaloux du très grand succès de Roméo et Juliette de Gounod, place du Châtelet, au théâtre lyrique, et l'opéra dit hop, 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 le projet suivant d'Ambroise Thomas, on le veut. Et donc l'opéra donne beaucoup d'argent, propose beaucoup d'argent à Barbier, Carré et Ambroise Thomas pour que Hamlet ne soit pas créé place du Châtelet, mais soit créé là, juste là, parce que l'opéra, à ce moment-là, se trouvait rue Lepelletier, et très exactement dans un pâté de maison qui a disparu lorsqu'on a créé le boulevard Haussmann et qu'on l'a réuni au boulevard des Italiens. Donc, quand vous sortirez du théâtre tout à l'heure, vous vous retrouverez sur ce grand carrefour où donne la station Richelieu de Rouault. Sur ce carrefour, il y avait le pâté de maison où se trouvait l'opéra jusqu'à l'année où il a brûlé, en 1873. Et à ce moment-là, on finissait déjà les travaux du Palais Garnier, donc ça n'a pas été une catastrophe. Donc l'opéra, vous voyez, un jet de pierre de l'opéra comique, a réussi à détourner, enfin à attirer Ambroise Thomas, qui n'a eu qu'à traverser le boulevard avec ses librettistes, pour se retrouver dans la grande institution officielle. L'opéra, ça ne se refusait pas. Peut-être que c'est toujours le cas d'ailleurs. L'opéra payait bien, l'opéra avait des moyens sensationnels à mettre au service des productions, et puis l'opéra, c'était le temple de la musique officielle. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'Ambroise Thomas, dans notre foyer, fait un peu la tête. C'est qu'à partir de 1868 et du grand succès d'Hamlet à l'opéra, c'est devenu une personnalité officielle, Ambroise Thomas. Il a reçu tous les grades successifs de la Légion d'honneur, il a été élu à l'Institut, il a été bombardé directeur du conservatoire, donc une fin de vie un petit peu lourde à porter, et beaucoup moins amusante que ses débuts avec Alexandre Dumas. Donc en 1867-68, voilà Ambroise Thomas qui part à l'opéra avec ses librettistes sous le bras, et là il trouve des moyens sensationnels qui expliquent la forme de l'œuvre que vous allez découvrir ce soir. Donc c'est un opéra et pas un opéra comique, ça vous l'avez compris, un opéra mis en musique continuellement. C'est un opéra qui fait très attention avec la question politique. Quand vous prenez la pièce de Shakespeare, vous voyez bien qu'on a un prince, Hamlet, prince du Danemark, qui aurait dû monter sur le trône de Danemark après la mort de son père. Hamlet, père, est mort. Hamlet, fils, aurait dû lui succéder. Or, il s'est passé quelque chose qu'on ne s'explique pas bien. La mère d'Hamlet, Gertrude, s'est remariée avec le frère du roi décédé, Claudius, et c'est le roi, c'est le nouvel époux de la reine qui devient roi. On ne comprend pas très bien d'ailleurs comment se promène cette couronne, parce qu'elle est tantôt sur la tête d'un homme, tantôt sur la tête d'une femme, qui la redonne à son mari. Mais en tout cas, le prince Hamlet n'est pas monté sur le trône de Danemark, et dans la pièce de Shakespeare, il mène l'enquête, certes, parce que le fantôme de son père lui ordonne, mais il y a aussi un objectif politique, il veut comprendre pourquoi il était spolié du trône. Cette question-là disparaît complètement. On est en 1868 en France. On ne peut pas aller trop loin sur les questions de continuité dynastique. On ne peut pas traiter de trop près ces questions politiques un tout petit peu délicates. Il y a une censure dramatique très très forte qui s'exerce sur toutes les pièces et sur tous les livrets, qui lit tous les textes avant de donner l'autorisation de les jouer ou de les mettre en musique quand ce sont des livrets. Donc vous allez voir que, fort aussi de leur expérience sur Roméo et Juliette, Barbier et Carré, les librettistes, ont vraiment gonflé, si je puis dire, l'histoire sentimentale entre Hamlet et Ophélie pour évincer soigneusement tout ce qui a trait à la politique. Ce que Alexandre Dumas avait déjà expérimenté aussi, 20 ans plus tôt, c'était comment finir Hamlet. On ne peut pas finir sur l'hécatombe que Shakespeare a mise en scène, et qui montre en plus le Danemark passé sous la coupe de la Norvège. Ça, ce n'est pas possible. On est en France quand même, on est en France sous le Second Empire. Il faut quand même que la tête couronnée sorte indemne, enfin en tout cas que le détenteur légitime du sceptre sorte indemne de cette aventure. Donc vous allez voir que Alexandre Dumas avait essayé plein de fins différentes, Barbier et Carré se sont rangés à la plus sage, Hamlet à la fin monte sur le trône du Danemark. Tout va bien. Donc évidemment ils ont très sagement écrit cette histoire, ils ont mis l'accent comme il fallait sur la relation entre Hamlet et Ophélie, et Roméo et Juliette les avaient un petit peu inspirés, mais il y a autre chose qu'ils ont très bien compris aussi, c'est que si Hamlet veut mener correctement son enquête, qui est quand même une enquête qui porte sur un régicide, il se met en danger, parce qu'assez rapidement, il comprend que les auteurs du meurtre pourraient bien être très très proches du trône, voire sur le trône. La seule façon pour Hamlet de sauver sa tête et de mener son enquête jusqu'au bout, c'est de feindre la folie. Et la meilleure preuve qu'il puisse offrir de sa folie, n'étant pas fou, c'est de repousser Ophélie. Ophélie, c'est celle qu'il aime, elle l'aime, ils doivent se marier. Et pour prouver qu'il est fou, à tout son entourage, Hamlet rejette Ophélie. On a donc une histoire d'amour étonnante dans laquelle jamais, quasiment jamais, les deux personnages ne peuvent se prouver leur amour, mis à part dans la première scène, et dans laquelle ensuite l'amour est remplacé par la folie. Hamlet doit montrer qu'il est fou en repoussant Ophélie, et Ophélie n'a pas les moyens de résister à cette violence, et elle sombre véritablement dans la folie. C'est une très belle dialectique qui s'instaure entre l'amour et la folie, et que les librettistes ont très bien su monter pour faire une œuvre dramatique, tout en ayant évincé le message ou le contenu politique. Alors, Ambroise Thomas disposait d'interprètes sensationnels. Jean-Baptiste Faure, c'était le plus grand baryton de son époque. Hors de question de confier le rôle d'Hamlet à un ténor, c'est un rôle beaucoup trop torturé. La tessiture de baryton, c'est très bien. Il y avait le meilleur baryton de l'époque à l'opéra. Très beau, portraituré par tous les peintres impressionnistes de son temps. Il était d'ailleurs un grand collectionneur. Une partie de sa collection se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay. C'était quelqu'un de très charismatique, avec une voix somptueuse. Vous allez voir, il est toujours en scène, quasiment toujours en scène. Dans le rôle d'Ophélie, l'opéra avait une star invitée, guest star de la troupe de l'opéra. C'était une jeune soprano suédoise. Formidable, une suédoise pour chanter le rôle d'une danoise. Ça tombait sous le sens en 1868. Et cette mademoiselle Nilsson a même été priée de confier à Ambroise Thomas une chanson folklorique de son pays, afin qu'il y ait dans le rôle d'Ophélie une chanson un peu bizarre, aux sonorités un peu bizarres, qui permettent d'accentuer sa folie. Vous verrez que tout le quatrième acte est consacré à la folie d'Ophélie. C'est extraordinaire, c'est un acte entièrement centré sur sa folie. Alors on doit vous dire qu'on a coupé une partie du quatrième acte pour notre production, parce que le quatrième acte s'ouvrait sur une fête paysanne. Pourquoi ? Parce qu'à l'opéra, il y avait un ballet très important qu'il fallait faire jouer dans tous les opéras. Donc il y avait toujours un grand ballet prévu entre le deuxième et le dernier acte à l'Opéra de Paris. Mais ça venait rompre parfois, un peu cruellement, la tension dramatique qui s'était accumulée. Alors là, c'était pour les contemporains d'Ambroise Thomas, c'était intéressant. Une fête champêtre avec plein de paysans qui dansent et qui chantent, enfin qui dansent surtout. Et vous savez, les paysans au XIXe siècle sont toujours naïfs, heureux, frais, ils n'ont pas de problème, bien sûr, donc ils dansent joyeusement. Et là-dedans arrivait Ophélie, très torturée, qui sombrait progressivement dans la folie, puis qui choisissait de se suicider, en tout cas de se noyer. Et le contraste devait être très fort en 1868, mais nous, on a considéré que la musique était quand même plutôt alimentaire, ce n'était pas la meilleure musique d'Ambroise Thomas, et que pour le public d'aujourd'hui, ça allait être une grosse rupture que de vous faire gambader des paysans sur la scène de l'Opéra Comique pendant 20 minutes. Et puis la soirée dure quand même 3h20 avec entracte, et on s'est dit que ça allait être un peu long si on rajoutait le ballet de 20-25 minutes. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a coupé. Pour le reste, bien sûr, on joue toute la partition. Et vous verrez qu'on n'est pas du tout embêté d'éviter les gambades de paysans, les petites gavottes, etc. Ce n'était pas utile. Ambroise Thomas a aussi trouvé à l'opéra un orchestre extraordinaire. C'était le meilleur orchestre du monde, l'orchestre de l'Opéra de Paris à l'époque. Y jouaient les plus grands solistes, qui étaient aussi de très grands professeurs au conservatoire, de très grands facteurs d'instruments qui avaient vraiment fait progresser toute la facture instrumentale pendant les 18e et 19e siècles. Il y avait un panel d'instruments dans la fosse extraordinaire. Et en particulier, il y avait aussi toutes les inventions d'Adolphe Sax. Adolphe Sax, un an avant la création d'Hamlet, avait reçu un grand prix de l'exposition universelle de 1867 pour rendre hommage à son œuvre de facteur d'instruments. C'est lui qui créait des cuivres sensationnels pour l'orchestre de l'opéra, certains qui jouaient en scène tellement ils étaient beaux. Et donc Ambroise Thomas s'est dit, tiens, le saxophone n'a jusqu'à présent jamais joué dans un orchestre pour une nouvelle œuvre créée à l'Opéra de Paris, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il existe, je l'intègre à ma partition. Donc vous allez entendre ce soir le premier solo de saxophone jamais composé pour une œuvre lyrique en France, et je pense même dans le monde, parce que Adolphe Sax était établi à Paris, donc je pense que c'est sa première apparition tout court dans un opéra. Voilà, des moyens formidables qui ont fait un succès absolu de cette création en 1868. Très vite, l'œuvre a été réclamée un peu partout dans le monde. Dans les 12 mois qui ont suivi, elle est partie jusqu'aux États-Unis. Le public anglo-saxon, enfin les théâtres anglo-saxons, ont réclamé Hamlet d'Ambroise Thomas. On leur a dit, hop, attendez un mois, on va vous refaire la fin. Donc, il a existé dès lors deux versions d'Hamlet, la version parisienne et la version londonienne. Donc à Londres, ça se terminait par un carnage. Et à Paris, par un prince Hamlet toujours torturé, ayant perdu sa fiancée, mais désormais appelé à régner sur le Danemark. Et cette œuvre aurait pu avoir un succès continu pendant tout le XXe siècle, si le wagnérisme, la mode du wagnérisme n'avait pas vraiment affecté l'image de la musique française, le succès du répertoire français à partir du début du XXe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où les institutions ont commencé à programmer Wagner et où ça faisait plus de vagues. Et Ambroise Thomas, avec sa figure, avec son allure très officielle, a fait partie des compositeurs qu'on a progressivement cessé de jouer pour le redécouvrir seulement il y a une vingtaine d'années. Et puis il faut dire que parmi les wagneristes, comme on les appelait à l'époque, les fans français de Wagner, il y avait quelqu'un de délicieux, mais qui a eu une parole un peu cruelle, c'est Emmanuel Chabrier. Emmanuel Chabrier qui disait « Il y a de la bonne musique, il y a la mauvaise musique, et puis il y a la musique d'Ambroise Thomas. » Voilà. Et il a dit ça, et c'est vrai que, même on le cite dans le programme de salle, on ne peut pas faire autrement, c'est d'une cruauté absolue. Comme dit Louis Langrée, notre chef d'orchestre et directeur, la musique d'Ambroise Thomas, pour le moment, parce qu'elle n'a pas été assez jouée, assez appréhendée, c'est une musique qu'il faut défendre. C'est une musique qui se défend peut-être pas toute seule. Si on la joue mal, on va dire que c'est de la faute d'Ambroise Thomas et pas que c'est de la faute des interprètes. Alors que si on joue mal son ami et contemporain Verdi, on dira que c'est de la faute des interprètes et pas de la faute de Verdi. Donc nous, ce qu'on veut vous prouver avec cette production, avec ces artistes, c'est qu'Ambroise Thomas est un très grand artiste, très bien servi à l'opéra comique, et qu'il faudra continuer à redécouvrir son œuvre, et on s'y attachera dans cette maison. Je vous souhaite une très belle soirée.